On va laisser le jury quitter la salle pour accueillir Anne Poiret qui va discuter avec nous. Donc je vous le rappelle, dernière possibilité pour voter aujourd'hui sur les premiers films de cette section internationale des films de plus de 40 minutes. Vous pouvez donc participer à l'attribution du prix du public en laissant votre bulletin dans l'urne transparente qui se situe à la sortie de la salle. Voilà, le jury est sorti. Anne Poiret, bienvenue à Douai. Vous connaissez bien la ville, hein, et vous connaissez bien le Figra. Merci d'être avec nous pour ce documentaire poignant, complexe, profond, difficile. J'imagine qu'il va susciter des réactions et peut-être des questions. Alors, j'en ai beaucoup, mais je vais essayer de trier pour laisser la place aussi au public. Dans ce documentaire, vous rappelez à un moment donné le rôle qu'ont joué notamment les prisons américaines dans la construction de Daesh. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire, attention, c'est aussi un message d'alerte, l'histoire pourrait se répéter. Finalement, à qui vous l'adressez ce film?
Merci, bonsoir. C'est une question très importante. C'est une question que le juge Raïd, que vous avez vu dans le film, se pose et qu'il avait à l'esprit constamment quand il jugeait ses enfants, et pour lequel malheureusement il n'y a pas énormément de réponses. Aujourd'hui, donc ces enfants qui étaient dans ce centre et qui sont devenus majeurs sont allés dans des prisons pour adultes, où effectivement enfin, voilà, tout est en place pour que ça se répète. La seule petite bonne nouvelle, c'est que 300 de ces enfants qui étaient donc mineurs sont aujourd'hui dans. Le centre a été construit et il a commencé à fonctionner depuis septembre. Et l'ONG que vous voyez dans le film continue à suivre ces enfants. Et je les ai eus il y a quelques jours. Ils s'en disent à peu près satisfaits. C'est-à-dire qu'il y a une prise en charge éducative minimum, ces enfants sont dans des lits, enfin voilà, il y a quelque chose de vaguement, d'une vague normalité, une vague légalité, à vrai dire, en Irak. Mais le problème est absolument entier, et malheureusement, c'est un film qu'on a beaucoup montré avec la productrice qui est ici, Estelle Mauriac de Ciné TV. On a organisé des projections au tribunal de justice de Paris, auprès du pôle crime de guerre, avec les juges pour enfants, auprès du Quai d'Orsay. On l'a montré à l'ONU, à New York, avec beaucoup de gens qui sont liés à ce dossier. Les gens qui sont, disons, concernés, entre guillemets, par exemple dans les organismes de l'ONU, sont assez conscients de tout ça. Le problème, c'est qu'en Irak, aujourd'hui, il y a très peu il y a tellement de problèmes qui sont des problèmes immédiats, à commencer par construire un gouvernement qui n'est toujours pas en place après pratiquement 9 mois après les élections. Donc voilà, et même quand on parle à des dirigeants irakiens, au début, ils étaient très dans un sentiment de vengeance. Hein. Le gouverneur de Mossoul, aujourd'hui, qui était à l'époque la personne qui a mené le combat contre Daesh, le général Jouburi, il était très très violent au départ quand on lui parlait. Moi, je l'avais rencontré tout de suite après les combats. Quand on parlait des enfants, c'était très très violent dans sa bouche. Il y a quelques mois, quand on l'a rencontré pour ce film, il a conscience du problème. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'urgence en Irak que ça, c'est un problème de moyen terme, c'est-à-dire que les enfants aujourd'hui sont encore enfants. Et donc, c'est trop loin pour qu'une des décisions soient réellement prises. Après, les choses en tout cas à Mossoul aujourd'hui, la petite lueur positive, c'est qu'il y a un semblant de normalité et de paix qui est revenu. Il n'y a pas d'attentats, il n'y a pas de. Les enlèvements sont. Il y en a, mais c'est plus du tout le niveau de violence qu'on a connu pendant la guerre, sous Daesh, mais surtout avant Daesh, parce que avant 2014. Il y avait des attentats, justement des enlèvements, une violence sectaire absolument inouïe. Daesh était présent déjà, avait infiltré beaucoup de choses. Avant, il y avait Al-Qaïda. Voilà, depuis 2003, Mossoul est vraiment en proie à une immense violence. Et aujourd'hui, le seul petite note positive, c'est qu'ils ont la paix. Et donc, il y a quelque chose qui se retisse un tout petit peu. Voilà.
Merci Anne Poiré. Est-ce que des personnes veulent se manifester pour poser des questions ou partager un sentiment à l'issue de la projection? Je crois qu'il y a quelqu'un qui lève la main, donc on va faire venir le micro par là. En attendant, je vous pose une autre question. À un moment donné du film, on dit que c'est un sujet qui concerne tout le Moyen-Orient. Vous venez de nous donner des éléments de contexte sur comment, dans les organisations internationales, on reçoit ce film et on a conscience du sujet. On a le sentiment d'un grand silence, en revanche, de la communauté internationale du point de vue des dirigeants politiques. La France, par exemple, fait partie de ces pays qui ne rapatrient pas d'enfants qui sont concernés par ce sujet. Qu'en pensez-vous? Comment est-ce que vous avez un peu creusé cela? Et comment pouvez-vous, si vous avez des éléments, nous expliquer ce silence de la communauté internationale?
Alors effectivement, à l'ONU ou dans des instances internationales ou même auprès du gouvernement irakien, les pays qui défendent entre guillemets les droits de l'homme sont très embêtés pour faire du lobbying, pour faire rapatrier ces enfants. Alors ce qui a changé un peu depuis le film, c'est que les Irakiens ont commencé un tout petit peu à rapatrier des enfants d'Alol. C'est au compte-gouttes, c'est très compliqué. En plus, il y a des enfants dans ce camp qui n'ont rien à voir avec Daesh, donc ils pourraient tout à fait qui sont là. Enfin, bon, c'est complexe, mais ils ont un tout petit peu commencé à rapatrier des enfants. Mais évidemment, c'est très compliqué pour l'ambassadeur français sur place de dire qu'il faudrait quand même ramener les enfants d'Alol, parce qu'on leur répond, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Et souvent, il y a des choses qui sont un petit peu à front renversé, c'est-à-dire que souvent, à l'ONU, par exemple, ou auprès de ce genre d'instance, ce sont les Russes qui rapatrient le mieux leurs enfants, ou les pays d'Asie centrale qui ont le plus rapatrié leurs enfants. Et les enfants européens, à commencer par les enfants français, on estime qu'il y a à peu près 200 enfants français, pas dans le camp d'Alol, ils sont à Roj maintenant. Et donc, évidemment, c'est très, très compliqué de peser dans ce dossier. On a beaucoup dit pour les enfants français. Alors moi, je ne me suis pas intéressée aux enfants français dans ce film à dessein, parce qu'il y a d'autres films qui ont traité de ces questions-là. Estelle Mauriac à Ciné TV, on en a fait un, il y en a eu plusieurs. Et nous, on voulait donner justement de la visibilité à ce problème qui est... Donc les enfants français, c'est 200 enfants français. Dans le camp d'Alol, il y a 60 000 personnes et ça, 70% d'enfants, 70% d'enfants, une grande majorité d'Irakiens. Donc on avait l'impression qu'il fallait faire un film qui leur était consacré aux enfants locaux. Mais la question française est extrêmement importante, extrêmement grave. Il a toujours été dit que jusqu'aux élections, le pouvoir, et c'est vraiment à l'Élysée que ça se traite, qu'il ne changerait pas d'avis pour des questions électorales. En dépit de décisions de justice, en dépit de toutes les conseils des organisations internationales, de l'Europe, en dépit des sources sécuritaires qui disent qu'en fait ils seront à terme, parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle, ce sont des enfants et parfois vraiment très petits, ils pourront être dangereux à terme beaucoup plus en étant là-bas qu'ici. En janvier, il y a eu un événement absolument dramatique à Asaké, où il y a une des plus importantes prisons de Daesh tenu par les Kurdes syriens, où il y a une centaine de djihadistes qui ont attaqué la prison. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas combien il y a eu de morts. Il y a eu une dizaine de jours de combat dans la ville. Il a fallu que les Américains finissent par s'engager dans les combats pour les arrêter. On ne sait pas combien de personnes de Daesh ont été libérées. On sait qu'il y a des enfants qui ont été impliqués dans ces combats. On sait qu'il y a des enfants, par exemple, irakiens qui étaient dans cette prison. Qui ont servi de bouclier humain, qui ont été engagés dans le camp. Voilà, on a très peu d'infos là-dessus. Donc ça montre à quel point ces camps, ces prisons sont à la merci d'une situation sécuritaire qui peut se retourner à tout instant. Et donc on n'est même pas. Si l'idée c'est qu'ils soient loin de nous pour qu'on soit en sécurité, c'est même pas réussi. Voilà. Donc maintenant, c'est une question effectivement qui est très large et pour les Yézidis, par exemple, qui est très très loin d'être réglé. On sait qu'il y a, donc évidemment on n'a pas de chiffres, mais il y a plusieurs milliers de femmes qui sont toujours disparues. On sait qu'il y en a beaucoup dans le camp d'Alol qui ne veulent pas rentrer parce qu'elles savent qu'on va les séparer de leurs enfants et qu'elles ne le veulent pas. La jeune femme que vous avez vue dans le film avec sa petite ont été réunies à l'issue d'un épisode assez rocambolesque dans lequel je ne vais pas rentrer, mais il y a une dizaine de femmes comme ça et de leurs enfants de cette orphelinat qui ont été réunis à la frontière. Ils ont été emmenés dans un endroit sécurisé quelque part au Kurdistan irakien. Et certaines de ces femmes ont été sorties, ont pu rejoindre la Suède. La jeune femme que vous avez dans le film, elle est toujours là-bas. Donc ça fait plus d'un an qu'elle est dans une safe house avec sa fille et qu'elles ne savent pas du tout ce qu'elles vont devenir. Voilà. Et c'est absolument toujours impossible pour la communauté yézidi de les accepter. Et voilà, donc c'est une situation qui reste complètement dramatique pour ces femmes et leurs enfants.
Une prise de parole, non ? D'accord. Justement, vous l'avez dit, redit, ce sont des enfants. Dans ce film, on vous voit dessiner, les laisser dessiner. Donc, il y a une place qui est laissée au dessin qui est assez importante et qui nous remet aussi dans ce champ de l'enfance. Vous auriez pu les regarder comme des soldats aussi, et vous n'avez pas fait ce choix. Pourquoi ?
Alors d'abord parce qu'ils ne sont pas tous des soldats dans le film, il n'y en a qu'un en réalité dont on sait qu'il a pris des armes et qu'il a combattu, avec qui est donc ce garçon yézidi, et c'est parce qu'il a été accepté par sa communauté que les Kurdes ont décidé de ne pas les judiciariser, de ne pas les mettre en prison eux. Donc c'est pour ça qu'il est dans ce camp, ça fait quand même 3 ans qu'il est là quand on lui parle et qu'il a pu un peu atterrir comme ça. Les autres, ce ne sont pas des soldats, donc on n'a absolument aucune raison de les considérer comme tels. Et puis, ce sont des enfants, vraiment. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Ce sont des enfants. Après, ce n'est pas toujours évident de les faire parler. Ils sont... L'idée, c'était de leur donner un espace et de leur laisser verbaliser les choses comme ils le souhaitaient. Parfois, effectivement, avec le dessin, ça aidait. Parfois, ça a été problématique, le dessin. Moi, j'avais beaucoup discuté avec une psychologue avant de partir pour voir comment pour me préparer à les aborder. Et elle m'avait dit, effectivement, c'est formidable de médiatiser, mais parfois, ça peut générer encore plus de frustration parce qu'en fait, beaucoup de ces enfants n'ont pas été à l'école. Vous voyez, avec le petit Yasser au début, il ne sait même pas tenir un stylo, même pas tenir un crayon. Donc, en fait, même lui proposer de dessiner ce qui pour nous est quelque chose d'évident, c'est-à-dire que pour nous un enfant ça dessine, ça c'est pas forcément écrire mais ça dessine, en fait c'est un apprentissage, et donc leur mettre dans les mains ça peut parfois générer, ça a généré avec certains enfants des blocages, parce qu'en fait ça les confrontait à cette impossibilité de s'exprimer même avec ce média-là.
Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut partager ici? On va prendre 2 questions dans le public. Juste là en premier, et puis après ce sera tout juste derrière.
Bonjour, merci pour votre documentaire. Je voudrais qu'on revienne sur le dernier plan. Ce plan plein de poésie, pourquoi vous l'avez choisi comme dernier plan ?
Merci. Parce que moi je fais généralement des films qui sur des questions très grises, en fait. Je travaille beaucoup sur les après-guerres, donc je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans ces moments-là, justement, qui sont très complexes, sur lesquels il n'y a pas de réponses à apporter qui sont toutes faites. Voilà, moi j'aime bien essayer de donner de montrer la complexité des choses. Là, pour ces enfants, c'est très complexe, oui, c'est très complexe. La réconciliation, elle ne va pas arriver tout de suite. On a connu ça, nous, ça a mis longtemps. Enfin, je veux dire, on ne peut pas les juger pour ça, et la façon dont ils mettent à distance ces familles, c'est compliqué. Mais il y a aussi quand même des petites choses à faire, et j'espérais que ce film y serve à ça, et je voulais justement, peut-être à la fin du film, ouvrir sur une note d'espoir et une note, une adresse, en fait, à ce que des choses soient faites. Par exemple, à ce que ces enfants aient le droit d'aller à l'école, à ce que, justement, peut-être des gouvernements ici, l'ONU, pèsent pour que le gouvernement irakien autorise ces familles à obtenir leurs papiers et que leurs enfants puissent aller à l'école, à ce que les familles rentrent en Irak, voilà, qu'on puisse se dire qu'il y a des choses à faire. Voilà. C'est très compliqué, ça va être long, mais il y a des choses à faire.
Bonsoir. Bravo pour votre super documentaire. Moi, je voulais simplement vous poser une question sur les difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain. Est-ce que ça a été compliqué d'avoir accès à ces enfants ? Comment ça s'est passé pour les rencontrer ? Et combien de temps vous les avez suivis ?
Merci pour votre question. Alors, ça a été, comme tous les gens qui ont travaillé en période de Covid, encore plus compliqué, mais comme tout le monde. Par exemple, alors, pour travailler au Kurdistan irakien, par exemple, ce n'est pas compliqué. En venant de France, il n'y a pas de visa, mais il y avait le Covid. Donc, on ne savait pas si on pourrait accéder au camp, on ne savait pas si quelles règles d'hygiène aussi il fallait nous avoir. Bon, il y avait toute cette complexité-là. Après, c'est une époque où l'Irak était encore très, très compliqué d'accès pour les journalistes. Les visas étaient très longs et ils se servaient du Covid pour les rendre encore plus longs. Donc, quand on passe à Mossoul, ça se complexifie. Et au Kurdistan syrien, au nord-est syrien, on a été quasiment la première équipe à rentrer après plusieurs mois de fermeture après le Covid. Donc, on a un peu essuyé les pots cassés. Notre fixeur n'a pas pu rentrer avec nous. Là, il fallait trouver un fixeur. Voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Je pense qu'on aurait peut-être pu avoir... Un meilleur accès par exemple à la prison d'Assaké, peut-être si on n'avait pas un peu comme ça réessuyé les plâtres de l'accès des journalistes. En dehors de ça, les familles, nous on travaille avec un fixeur merveilleux qui s'appelle Sangar Khalil en Irak, qui a des contacts assez extraordinaires avec les familles yézidis, donc ça n'a reposé que sur la confiance que ces familles, que ces femmes lui faisaient. Sinon, elle ne nous aurait jamais parlé. Il est kurde, mais il est de Mossoul. Et j'avais déjà fait un film avec lui. Il connaît très, très bien Mossoul. Il connaît bien les quartiers, les gens. À Mossoul, il suffit de parler aux enfants dans la rue. On rencontre ses familles, en fait, parce que les mômes dans la rue. Alors, il y a beaucoup de travail d'enfants qui ne sont pas forcément liés à Daesh, qui est lié à une pauvreté immense et aux écoles fermées et à la guerre. Mais bon, voilà, c'est pas très compliqué d'en trouver, à vrai dire. Après, on est passé par des ONG, bien sûr. Là, pour le coup, à l'époque où on y était, un vrai verrou sécuritaire, c'est-à-dire que c'était un moment où les camps de déplacés internes fermaient de façon extrêmement brutale, et quelques ONG, notamment NRC, a un petit peu protesté en disant quand même on peut pas virer les gens comme ça du jour au lendemain. Et donc il y a des autorisations pour ces ONG qui sont très compliquées. Il y a un bras de fer avec le gouvernement. Donc elles ont été très très frileuses et elles nous ont toutes plantées, en fait, pour dire les choses simplement. Même celle que vous voyez dans le film, ça a été vraiment un bras de fer. On avait négocié, ça faisait 6 mois que je négociais avec elle quand on est arrivé finalement. On a pu filmer la première journée, puis après on ne pouvait plus filmer, on ne pouvait plus rien utiliser. Enfin bon, bref, ça a été reconquis pour pouvoir utiliser quelques images d'eux. Parce qu'il y a cette suspicion de collaborer avec des terroristes. Et ça, c'est un truc qui peut vous tomber dessus à chaque moment. Vous avez vu, il n'y a pas d'avocat dans le film, on a juste pu avoir cette femme au téléphone. Et c'est tout ce qu'on a pu faire parce qu'ils sont terrifiés suspecté d'aider Daesh et d'avoir des condamnations. Il y en a eu, hein, il y a eu des arrestations d'avocats il y a encore quelques mois pour ça. Après, dans le camp d'Al-Hol, c'est compliqué parce que les Kurdes vous donnent très peu d'accès, que sur place c'est très volatile. Il y a eu pas mal d'assassinats, on sait qu'il y a des armes qui tournent, donc il ne faut pas rester très longtemps. Mais après... on a pu travailler avec Save the Children. Pour le coup, pareil, on les avait contactés des mois avant pour que montrer patte blanche, qu'ils comprennent qu'on allait protéger les enfants, protéger leur anonymat. Et ça, il faut vraiment rendre hommage à France Télé qui nous oblige à cacher ces enfants, à cacher leur identité. Et c'est pas toutes les télés qui font ça. Et en fait, ça nous protège vraiment nous. D'une tentation de les montrer, en fait, et du coup ça nous permet d'avoir de meilleures relations avec les ONG aussi, parce qu'évidemment elles ont ça en tête et faut vraiment passer du temps à leur expliquer ça. Et puis voilà, après ces enfants ils ont envie de parler, donc la prison, moi je pensais pas qu'on aurait accès. J'avais essayé de l'avoir 2 ans avant pour un autre film. Je connaissais le juge Raïd, je savais qu'il était assez inflexible, hein, mais ce qu'il m'avait déjà dit, moi vivant, même avec un ordre du Premier ministre, vous rentrerez pas. Et on y est quand même allé, et bien en fait, il était tellement écœuré par ce qu'il faisait, par ce qu'il voyait, qui nous a laissé filmer après bon, pas mal de discussions, mais il nous avait déjà rencontrés. Et puis vraiment, le temps avait passé et a joué pour nous. Donc il nous a laissé dévoiler ces images. On n'a pas pu. En fait, il a veillé à la légalité, c'est-à-dire que nous ne sommes pas rentrés avec une caméra dans la prison, mais on a pu voir de nos yeux que ce qu'on filmait depuis ces écrans était tout ce qui se passait dans la prison. Voilà, je pense que je ne sais pas si j'ai répondu mais à votre question.
Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Alors justement, je rebondis juste sur, et on terminera sur ça, je rebondis sur cette séquence avec la prison. Il y a un échange qui est assez révélateur où vous demandez combien de temps par jour ils peuvent sortir et il vous répond 2 heures par semaine. Donc c'est même encore pire que ce que vous imaginiez en allant là-bas et en regardant ces conditions de détention.
Oui, alors quand on est allé dans la prison, ça avait un petit peu évolué déjà depuis le temps où il y était, mais c'est vrai que c'est fou, quoi. Mais le juge voulait qu'on voit ça, et qu'on montre ça. Je pense que le plus poignant était le policier qui tenait cette prison et qui était qu'on n'a pas pu filmer malheureusement, évidemment. Enfin, pas évidemment, mais qui a refusé absolument qu'on le filme. Mais qui était horrifié lui-même par ce qu'il faisait, en fait, en disant c'est Dante, quoi, c'est l'enfer, hein, ce qu'on leur fait vivre et ce qu'ils vivent. Voilà, il était bouleversant parce qu'il disait, moi j'ai des enfants, en fait, c'est absolument monstrueux ce qu'on est en train de faire. Et en même temps, il tenait son truc, évidemment, d'une main de fer et atrocement violemment, mais en ayant conscience.
Un grand merci, Anne Poiré, d'être venue au FIGRA. Merci beaucoup. C'était la dernière projection pour cette journée d'ouverture dans la section internationale des films de plus de 40 minutes. Pour celles et ceux qui veulent poursuivre avec nous, on se retrouvera demain dans cette compétition, demain matin, à partir de 9h30. Et ce soir, la soirée d'ouverture à 19h45 dans cette salle avec un film intitulé « Sous la loi des talibans » qui sera présenté en soirée d'ouverture de cette 29e édition du FIGRA. Merci encore, bonne fin de journée et à demain.